Et c'est le journal de Nicolas Crozel. Bonjour Nicolas.
Bonjour Karine, bonjour à tous. Comment éviter un cluster géant à Tokyo? Comment faire pour que les Jeux Olympiques ne tournent pas au cauchemar sanitaire? À 4 jours du coup d'envoi des Jeux, les organisateurs sont sur les nerfs. 3 cas positifs au sein du village olympique. Nous serons en direct de Tokyo dans un instant. Au sommaire également, une vaste opération d'espionnage à travers le monde, révélée notamment par France Inter, des avocats, des journalistes d'une cinquantaine de pays dont les téléphones ont été ciblés grâce au logiciel Pegasus. Le gouvernement face au Covid, une semaine après les annonces d'Emmanuel Macron pour durcir le pass sanitaire, le texte est au menu du Conseil des ministres. On verra que le Covid reprend de la vigueur en France sur le bord de mer. Et puis le Tour de France et la victoire hier de Tadej Pogacar sur les Champs-Élysées. On se replongera dans l'ambiance.
À 7h50, la série Kaamelott s'invite sur l'antenne de France Inter. Après 458 épisodes, la série devient un film. Rendez-vous tout à l'heure avec son créateur, l'acteur et réalisateur Alexandre Astier.
France Inter.
Et si les JO de Tokyo tournaient à la catastrophe sanitaire, c'est le cauchemar des organisateurs.
Ah oui, les Jeux n'ont pas encore commencé, que déjà on recense près de 60 cas positifs depuis le début du mois, dont 3 au sein du village olympique, censé pourtant être une bulle sanitaire particulièrement étanche. 2 joueurs et un membre de l'encadrement de l'équipe sud-africaine de foot ont été testés positifs. Bonjour à vous Karine Nishimura.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous.
Vous êtes en direct de Tokyo. Première question d'abord, que vont devenir ces 3 personnes positives? Comment faire pour éviter un cluster géant dans le village olympique?
Oui, eh bien quand une personne est testée positive, elle est immédiatement exfiltrée du village olympique pour être isolée dans un hôtel loué par le comité d'organisation. C'est le cas donc des 3 membres de l'équipe de football sud-africaine. Ces cas positifs n'ont évidemment droit à aucune sortie et sont privés d'entraînement. Ils sont testés tous les jours et leur sortie d'isolement est décidée par des experts en maladies infectieuses. Par ailleurs, dans le même temps, les cas contacts, 21 rien que pour les 3 Sud-Africains, sont eux aussi soumis à des tests quotidiens. Ils sont placés sous un régime d'isolement à l'intérieur du village olympique, cette fois, jusqu'à ce que les médecins estiment qu'ils ne sont plus potentiellement dangereux. Ils mangent chacun dans leur chambre et s'entraînent séparément. Notez aussi que les athlètes peuvent être des cas contacts de personnes non liées au JO, mais testées positives, par exemple des passagers du même avion pour venir au Japon.
Karine Nishimura en direct de Tokyo, merci beaucoup.
Et en France aussi, on scrute de près des chiffres, Nicolas.
Ouais, plus de 12 500 nouveaux cas de Covid annoncés pour la journée d'hier, chiffre qui englobe un rattrapage de samedi, mais c'est quand même le pire dimanche depuis la mi-mai. C'est le 3e jour consécutif aussi où l'on dépasse ce seuil des 10 000 nouvelles contaminations. Et quand on regarde la carte d'un peu plus près, le Covid semble s'inviter à la plage. Une vingtaine de départements dépassent les 50 cas positifs pour 100 000 habitants. Et ils sont presque tous situés sur le littoral, Solène Lehen.
Il y a d'abord la façade ouest de la Loire-Atlantique jusqu'à la frontière espagnole, jusqu'aux Pyrénées-Atlantiques. Tous les départements dépassent le seuil dit d'alerte, un taux d'incidence de 50 cas pour 100 000 habitants, à l'exception de la Vendée, juste en dessous de ce seuil. Plus à l'est, sur la façade méditerranéenne, même constat, de la frontière avec l'Espagne jusqu'à la frontière avec l'Italie, les taux de contamination dépassent les 50 pour 100 000, record même pour les Pyrénées-Orientales, près de 250 contaminations pour 100 000 habitants. Forte poussée du Covid également en Haute-Corse. Alors il y a certainement un effet vacances. La fréquentation touristique avec d'importants regroupements de population. Qui dit vacances dit qu'on y fait un peu plus la fête avec sans doute un relâchement des gestes barrières. Et puis sur la façade ouest, la plupart de ces départements ont été peu touchés par l'épidémie lors des vagues précédentes. Donc moins de personnes déjà contaminées et immunisées pour faire rempart, pour bloquer le virus qui a ainsi davantage le champ libre.
Et pour éviter une 4e vague, il n'y a plus de temps à perdre, martèle l'exécutif. Passe sanitaire élargi, obligation de se faire vacciner pour les soignants, obligation d'isolement si on est contaminé. Une semaine après les annonces d'Emmanuel Macron, le projet de loi qui doit encadrer ces nouvelles restrictions est présenté ce matin en Conseil des ministres. Et face au durcissement de ces règles, notamment dès le mois prochain, le pass pour prendre le train ou les cars sur des longs voyages, certains d'entre vous vont-ils renoncer à partir? Les compagnies vont-elles faire face à une vague d'annulation? Il est trop tôt pour le dire, mais les acteurs des transports restent sur leur garde, Maxime Debs.
À la SNCF, pas de phénomène de déréservation pour l'instant, nous dit-on, pas plus que chez Flixbus, mais pour son directeur général, Yvan Lefranc-Morin, ça ne va pas durer.
Il faut savoir que les réservations chez nous sont très souvent en majorité de dernière minute dans les 2 à 4 jours qui précèdent les trajets. Donc on n'a pas encore d'effet massif sur nos réservations, mais il y aura nécessairement des annulations ou des gens qui décideront en dernière minute de ne pas voyager. Ne pas les avoir, ça va évidemment impacter notre résultat économique.
Et d'autant plus que chez Flixbus, les derniers sièges vendus les derniers jours sont aussi les plus chers généralement et permettent la rentabilité d'un trajet qui se fera peut-être en voiture. Les malheurs des cars Macron, si tant est que... Peuvent-ils faire le bonheur des acteurs du covoiturage ? Y a-t-il ruée chez Blablacar où le pass n'est pas demandé ? Son patron Nicolas Brusson, pour l'instant, dit que non.
Les annonces de la semaine dernière n'ont pas fondamentalement changé la dynamique. Je crois qu'en fait, ça le fera peut-être d'ici un mois quand les choses commenceront à se mettre en place.
Blablacar non tenu à la moindre obligation, mais qui travaille tout de même à un système. Il s'agira sans doute de cocher une case sur son profil de covoitureur pour dire si oui ou non vous acceptez de présenter votre pass au chauffeur, optionnel, au bon vouloir de chacun, dans le respect de ceux qui voyagent avec vous.
Maxime Debs, au Royaume-Uni aussi, l'épidémie flambe. Et pourtant, les Britanniques jettent le masque à partir de ce matin. Quatrième étape du déconfinement outre-Manche. La quasi-totalité des restrictions sont supprimées. Le masque n'est plus obligatoire dans les transports et les lieux publics, à l'exception du métro londonien. Les discothèques peuvent rouvrir. Il n'y a plus de jauge pour les spectacles et les cinémas. Ou encore les stades, une liberté retrouvée à laquelle ne goûtera pas le Premier ministre Boris Johnson, placé à l'isolement. Il est cas contact. France Inter vous le révélait dès hier soir, des avocats, des hommes politiques et des journalistes cibles d'une opération d'espionnage dans une cinquantaine de pays du monde. Le projet s'appelle Pegasus, du nom d'un logiciel israélien qui s'infiltre dans les téléphones portables. L'affaire éclate grâce au travail d'un consortium de journalistes créé par Forbidden Stories, dont fait partie la cellule d'investigation de Radio France. Ces journalistes révèlent que plusieurs États ont utilisé le logiciel, parmi eux le Maroc. 10 000 numéros sélectionnés comme possibles cibles par Rabat, dont environ 1000 numéros français, et parmi eux celui de Joseph Braham, avocat français dont le téléphone a bien été infecté.
Mon cabinet a géré un dossier qui a conduit le Maroc à lever la coopération judiciaire entre la France et le Maroc. Enfin, donc j'imagine que c'est sur ce type de dossier où on avait dénoncé le système tortionnaire marocain. Je ne vois que ça comme explication. Et pour autant, enfin, on est un cabinet d'avocats, on essaie de faire ce qu'on peut, mais enfin, on n'est pas non plus le plus gros cabinet de la planète, très loin de là. Tout ce qu'on fait, c'est un peu de jus de cerveau, de travail sur un ordinateur et avec deux trombones et trois élastiques. Et que un État soit prêt à mettre des moyens aussi forts, aussi violents, dans le sens violation de la vie privée et qui nécessite autant d'énergie, je trouve ça assez hallucinant. Et ma réaction, c'est de me dire que ces États dictatoriaux ou quasi-dictatoriaux sont en fait des colosses au pied d'argile. Ça veut dire qu'il suffit d'un peu de liberté d'expression et d'un peu de droit pour qu'ils se mettent à flipper complètement et à déraper comme c'est pas permis.
Joseph Braham, avocat français dont le téléphone a été infecté. De son côté, la société NSO qui fabrique le logiciel Pegasus dément ce matin des allégations qu'elle qualifie de mensongères.
La politique et cette question ce matin, comment relancer la machine La République En Marche ?
Après le naufrage des régionales et des départementales le mois dernier, les militants sont appelés à voter pendant 3 jours pour élire le nouveau bureau exécutif. Les cadres du parti, 2 listes s'affrontent. L'une regroupe quelques parlementaires et référents locaux et l'autre, largement favorite, rassemble les ténors de la Macronie, Richard Ferrand, Christophe Castaner, Gabriel Attal ou encore Marlène Schiappa. Un scrutin que regarde évidemment le chef de l'État, mais de loin, Élodie Forêt, comme si Emmanuel Macron se désintéressait quelque peu du parti qu'il a pourtant lui-même créé.
Les mauvais résultats aux élections régionales ont scellé le sort de La République En Marche. Faute d'implantation locale, le parti patine. Et ce n'est plus sur lui qu'Emmanuel Macron mise pour faire campagne lundi dernier. Après son allocution, c'est d'ailleurs aux députés de sa majorité qu'il a demandé de faire du porte-à-porte pour défendre son bilan. Un ministre commente, ces marcheurs désormais, ce sont eux. Alors à quoi est destiné LREM ? À être une écurie présidentielle, décrypte un conseiller. D'où l'aval d'Emmanuel Macron à cette liste de poids lourds pour reprendre le bureau exécutif. Richard Ferrand, Christophe Castaner, Sibeth Ndiaye. Réunir les pionniers pour montrer qu'ils sont toujours là, prêts à monter au front. Y ajouter quelques ministres pour la photo de famille. Avec un seul enjeu, faire réélire le chef de l'État qui, pour les choix stratégiques, fonctionnera comme en 2017 avec un commando, prédit un membre du gouvernement. Laissant LREM telle une coquille vide dont la survie post-Macron est loin aujourd'hui d'être assurée.
Élodie Forêt pour France Inter. Dans les Pyrénées-Orientales, les pompiers toujours en lutte ce matin contre un important incendie dans le secteur de Millas. 300 habitants ont dû être évacués, 140 hectares parcourus par les flammes, dont 75 de vergers et de garrigues qui ont été détruits. La grande boucle est bouclée. Les coureurs du Tour de France sont arrivés hier soir sur les Champs-Élysées à Paris. Victoire finale sans surprise pour Tadej Pogacar qui signe là son deuxième succès d'affilée à seulement 22 ans. La dernière étape a été remportée au sprint par le Belge Wout van Aert devant un public un peu moins nombreux que d'habitude, passe sanitaire oblige, mais avec malgré tout pas mal de ferveur, Claire Checaglini.
Nina est avec toute sa famille, ils brandissent des drapeaux slovènes et chantent à tue-tête leur hymne national.
On est très fiers de la Slovénie, on est là pour se porter, on est très heureux. Après l'année de pandémie, surtout, ça fait plaisir de fêter en extérieur.
Moins enthousiaste son voisin.
On attend toujours un Français depuis des dizaines d'années, ça vient pas, on attend l'année prochaine.
Et pourtant, selon Nicolas, le champion du monde en titre, le Français Julien Alaphilippe, s'est bien battu.
Il a fait beaucoup d'efforts, il a quand même failli gagner, mais Pogacar, bah, il a gagné, mais il le méritait.
Son copain Quentin est lui plus perplexe.
C'est pas possible de mettre presque 6 minutes au deuxième coureur, enfin, je pense pas.
Reste tout de même des admirateurs inconditionnels de la grande boucle à l'image de l'or.
Moi j'ai plus l'âge des enfants, mais oui, c'est magique. Ouais. C'est le Tour de France, le cyclisme, c'est la puissance, c'est la difficulté. Il suffit une fois dans sa vie de monter un col, une fois, et après vous regardez après, parce que vous dites c'est pas possible, vous êtes admiratif.
Et qu'importe la nationalité du vainqueur pour Laurent, il a savouré cette année chaque passage des coureurs sur les champs, la foule moins compacte lui laissant une meilleure visibilité de la course.
Un reportage clair chez Caglini sur les Champs-Élysées pour l'arrivée du Tour de France.
Merci Nicolas Crozel et je vous dis à demain.
À demain.
Tout de suite, l'édito écho.